Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Vous le savez, c'est la libre antenne, comme tous les vendredis. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Aucun sujet n'est tabou, donc profitez-en. 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. RFI appelle sur l'actualité et le compte WhatsApp qui, depuis 2-3 jours, est en panne. Donc voilà. N'envoyez pas des messages, je préfère vous prévenir. Il est en panne, on a un petit souci, mais ne vous inquiétez pas, ce sera réglé très rapidement, je l'espère. La libre antenne, donc, dans 30 minutes. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI et des questions concernant, pour commencer cette émission, la visite officielle du président congolais Félix Tshisekedi en Belgique. Bonjour Kevin.
Bonjour Juan, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci de nous appeler de Lubumbashi, nous vous écoutons.
Oui, Juan, c'est lundi, le président Félix Tshisekedi a fait sa première tournée en Europe, précisément en Belgique. Alors, j'aimerais savoir, cette visite doit marquer le retour d'un appui belge en RDC. Et quels sont les différents projets de coopération?
Oui, première visite officielle en Europe pour le président Tshisekedi. Il a choisi la Belgique. Sonia Rollet, bonjour.
Bonjour.
Vous rentrez tout juste de Belgique. Vous avez suivi pour RFI la visite officielle du président congolais. L'objectif affiché, c'était de réchauffer les relations diplomatiques qui s'étaient quelque peu refroidies sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila. En deux mots, on peut rappeler que les relations étaient vraiment tendues.
Ah oui, les relations étaient tendues. Il y avait même des officiers congolais qui a accusé certains officiels belges de chercher à déstabiliser le pays. Donc c'était monté vraiment en termes de mots. Oui. On se souvient aussi que la coopération militaire avait été suspendue, les officiers avaient été refoulés, les officiers belges qui assuraient depuis des années et des années la formation d'officiers congolais. Il y avait aussi la fermeture de consulats. Bref, c'était une visite alors un tout petit peu particulière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement belge lui-même est sortant. Donc là, on a un gouvernement, enfin un gouvernement en RDC, il a fallu plusieurs mois, mais en Belgique, on est un peu dans la dynamique inverse, c'est-à-dire c'est un gouvernement sortant qui n'a donc pas beaucoup de pouvoir, oui, puisqu'il gère les affaires courantes.
Un gouvernement sortant qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais qui a tout de même signé des accords avec le
président.
Des protocoles d'accord. Voilà,
des
soyons
précis. Des
protocoles
d'accord, des lettres d'intention. C'est vraiment des documents juridiques. On peut pas être plus bas dans l'échelle des documents juridiques. C'était vraiment une visite qui avait plutôt une valeur symbolique forte. Donc l'idée, quand même, de recevoir Félix Tshisekedi après les critiques qu'avait formulées la Belgique quand même sur le processus électoral et les élections, de montrer que cette relation pouvait se renouer. Alors déjà à la fin, dans les dernières semaines du régime de Joseph Kabila, il y avait eu déjà des rapprochements, mais là on est vraiment avec une visite avec les honneurs. Le président congolais a pu aller voir le roi,
tapis rouge déroulé pour Félix Tshisekedi.
Voilà, et il y avait la volonté aussi de commencer à justement un peu lisser ses relations, réouvrir notamment les consulats, le consulat d'Anvers, le consulat congolais
Lubumbashi.
Lubumbashi du côté des Belges qui ne fonctionnait pas à plein régime. Il y a à peu près, le ministre Alexander De Croo nous a parlé de plus de 80 millions donc dans cette enveloppe de coopération entre la Belgique et la RDC, sachant qu'il y en a toute une partie, on le sait, qui avait déjà été orientée vers la société civile ou des projets de société civile à l'époque de la fin de Joseph Kabila. Ils ne voulaient pas donner cet argent-là au gouvernement et que là, ils vont bien devoir finir ces projets. Donc, c'est une première étape. Maintenant, ce que disaient les autorités belges, c'est évidemment qu'il fallait attendre le nouveau gouvernement pour pouvoir aller plus loin dans cette coopération. Ils n'ont pas repris pour l'instant sur tout ce qui était coopération militaire. Il y avait l'idée de faire des exercices bilatéraux entre les deux armées, donc pas de reprendre la coopération telle qu'elle était, mais déjà de commencer un tout petit peu sur ce volet-là. Rien n'a été signé à Bruxelles sur le sujet, il y a encore besoin de discussion.
Et puisqu'on parle de réchauffement des relations, le président Tshisekedi a également rencontré des entrepreneurs belges, c'était important pour lui de les rassurer aussi. Revenez en République démocratique du Congo, c'est en substance le message qu'il leur a lancé.
Voilà, il leur a dit qu'il fallait revenir, il leur a dit qu'il fallait revenir maintenant, même s'il y avait encore des doutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voyait bien à cette rencontre que les entrepreneurs belges étaient parfaitement prêts à revenir et qu'ils étaient plutôt heureux de revenir. Et il y a eu quand même 2 heures de tête-à-tête entre des entrepreneurs belges et le président congolais, où chacun a pu présenter son projet. Donc on va peut-être voir très concrètement des projets dans les prochains mois d'entrepreneurs belges.
Avec Kevin, vous aviez une dernière question ?
Oui, tout à fait, Juan. Alors que son élection a été contestée, comment la diaspora congolaise a-t-elle accueilli cette visite ?
Alors, on a pu vous suivre, hein, Sonia Rollet, cette semaine, notamment lors de cette rencontre avec les Congolais de Belgique. Sur place, à ce moment-là, il a eu un accueil triomphal.
Alors, sur place, c'était, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il est arrivé à l'aéroport militaire. Donc ça, c'est pas facile pour avoir des accueils de foule, parce que justement, c'est géré par les militaires en Belgique, et que c'était un peu tendu. D'ailleurs, toutes les étapes du parcours étaient tendues. On a bien senti que les policiers, notamment sur la rencontre avec la diaspora, étaient particulièrement inquiets. C'est là où il y a eu la grande rencontre populaire, sachant qu'il y a eu 4 000 personnes, enfin, plusieurs milliers de personnes dans le Palais Eiffel. Mais après, quand on discute avec les Congolais de Belgique, on voit bien que c'est comme au Congo, c'est-à-dire il y a un petit peu toutes les tendances. Il faut savoir que c'est un pays dans lequel il y a eu des exils par phase, donc on a vraiment toutes les tendances politiques. Quand on est à Bruxelles, on peut avoir des mobutistes, on peut avoir des supporters de Laurent-Désiré Kabila. Il y a vraiment absolument de tout à Bruxelles. Et donc forcément, il y avait toutes les réactions qu'on a pu voir au Congo.
Merci Sonia Rollet d'être passée ce matin. Répondre à Kevin de Lubumbashi. Bonne journée, 10h17 à Paris. Sophie Brondel, bonjour.
Bonjour.
Coordinatrice de l'association Info Birmanie, nous vous avons contacté ce matin car nous avons reçu des questions sur les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée en Birmanie, des questions qui nous sont posées par Mossadou. Bonjour Mossadou.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée, nous vous écoutons.
Ok, comme je le disais au standard, il y a 2 ans, jour pour jour, des centaines de milliers de Rohingyas ont fui la Birmanie vers le Bangladesh. Selon l'ONU, 600 000 Rohingyas vivent tous sous la menace d'un génocide.
Oui.
Et donc, à ce sujet, j'aimerais savoir que sait-on des conditions de vie de ces Rohingyas en Birmanie.
Ah, que sait-on des conditions de vie de ces 600 000 Rohingyas restés en Birmanie et qui sont systématiquement persécutés et qui vivent sous la menace d'un génocide? C'est ce que dit une commission d'enquête des Nations Unies. Sophie Brondel, précisons d'abord que les enquêteurs de l'ONU n'ont pas été autorisés à se rendre sur place. Que sait-on pour autant des Rohingyas aujourd'hui?
Alors, leur situation est documentée par les organisations de défense des droits de l'homme et par les enquêteurs de l'ONU, comme vous l'indiquez. Ils ont recueilli énormément de témoignages et ils ont beaucoup d'éléments pour nous donner un panorama de la situation sur place qui est absolument désastreuse. Vous avez 126 000 déplacés internes dans des camps qui sont donc dans des camps qui sont des sortes de prisons à ciel ouvert, et ces Rohingyas y sont depuis 2012. Et d'autres Rohingyas qui sont dans leur village et qui sont confinés. Ils n'ont aucun droit, ils sont toujours privés de citoyenneté, donc privés de statut légal et d'identité. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas accès à l'éducation, pas accès à la santé, privés de leur droit à la terre. Et ils vivent dans une situation souvent d'insécurité alimentaire avec de sévères restrictions d'accès à l'aide humanitaire dans les camps. Et ce qu'on constate aussi à la lecture du rapport des enquêteurs de l'ONU, c'est qu'il y a une pratique de confiscation de leurs terres par l'État depuis les violences de 2017. Et ce que documente l'ONU, c'est la poursuite des destructions de villages. En fait, ils indiquent que depuis août 2017 jusqu'à avril 2019, il y a des centaines de lieux de vie Rohingyas qui ont été entièrement ou partiellement détruits.
Ouais. Mais pour autant, Sophie Brondel, pour autant peut-on dire qu'ils vivent sous la menace d'un génocide? Le terme génocide a tout son poids, tout son sens. Génocide dit extermination.
Oui, alors tout à fait. La qualification de génocide, elle a d'abord été employée par certains politiques et puis par des ONG de défense des droits de l'homme. Dans les rapports de l'ONU de l'année dernière, il y avait déjà une intention génocidaire, des éléments de génocide qui étaient documentés. Mais là, cette fois-ci, les enquêteurs de l'ONU vont beaucoup plus loin et caractérisent l'intention génocidaire de l'État birman avec toute une série d'indicateurs, mais une politique qui vise vraiment à les détruire en tout ou en partie. Et c'est vraiment très documenté dans le rapport de l'ONU. Donc là, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas ou que la situation n'est pas de ce niveau de gravité.
Ouais, vous dites qu'on ne peut plus dire qu'on ne sait pas, justement, Mossadou. Vous avez une seconde question concernant la communauté internationale.
Qu'est-ce qu'on fait à la communauté internationale après la publication de ce rapport?
Sophie Brondel.
Oui, bah, votre question, elle est d'actualité depuis des années, si ce n'est des décennies, hein, puisque c'est un système de persécution qui est ancien. Ce qu'on attendrait de la communauté internationale, c'est qu'elle prenne des mesures vraiment beaucoup plus fortes en matière de justice pour faire juger les principaux responsables. Comme vous le savez, il y a la Cour pénale internationale qui s'auto-saisit. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à avoir une saisine par le Conseil de sécurité de la Cour pénale internationale. Donc là, les enquêteurs de l'ONU demandent à ce qu'on appuie encore cette recommandation.
D'autant que les enquêtes, excusez-moi de vous interrompre, Sophie Brondel, d'autant que les enquêteurs de l'ONU, ont établi une liste d'une centaine de personnes impliquées de près ou de loin dans des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité.
Oui, il y a une liste de noms qui s'allonge et donc il y a la nécessité de les faire juger avec aucune perspective au niveau national pour le moment. Donc il faut absolument que la Cour pénale internationale soit saisie ou à défaut un tribunal international ad hoc. Et là tout reste à faire en matière de justice pénale. Mais pour terminer, on peut aussi insister sur le fait qu'il s'agit maintenant de traduire la Birmanie devant la Cour internationale de justice pour sa responsabilité en tant qu'État au titre de la Convention de 1948 pour la répression du crime de génocide. Ce n'est pas une responsabilité pénale de l'État, mais c'est sa responsabilité juridique. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. Et si je peux terminer, j'en terminerai parce que la communauté internationale peut mettre des conditionnalités par rapport à son investissement et son aide au développement dans l'état d'Arakan actuellement. C'est ce que demandent les enquêteurs de l'ONU. Et ça, ça doit être fait. C'est un message fort adressé aux autorités birmanes. On doit être plus ferme par rapport à la gravité de la situation.
Mossadou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, parfaitement. Merci et bon week-end.
Bon week-end à vous et un grand merci à Sophie Brondel, coordinatrice de l'association Info Birmanie. Bonjour Amadou.
Bonjour Yann et bonjour à tous les auditeurs de Bokeh.
De
Bokeh, vous connaissez, j'imagine.
Bokeh, c'est en Guinée?
Bah, c'est en Guinée.
C'est en Guinée, voilà. Non, mais tout d'un coup, l'émission se transforme en quiz, vous voyez. Vous avez voulu me piéger, mais vous ne m'avez pas eu. En tout cas, ravi.
Désolé.
Pas du tout, je vous taquine. Amadou, vous nous appelez de Créteil, vous êtes en région parisienne, et vous avez des questions concernant l'affaire Balkany.
Oui, bien sûr. En fait, le maire de Levallois-Perret a été condamné à 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate pour fraude fiscale. C'était le vendredi 13 septembre passé. Oui. Et son épouse Isabelle Balkany, qui est sa première adjointe à la mairie de Levallois, a été condamnée à 3 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Alors moi, je voudrais savoir, Yohann, comment expliquer qu'Isabelle Balkany puisse remplacer son mari à la tête de la mairie? Alors qu'elle a été condamnée, à la prison ferme aussi.
Oui, elle a été condamnée à 3 ans de prison, vous le disiez. C'est vrai que la situation a de quoi étonner. D'ailleurs, la ministre de la Justice a admis qu'on pouvait trouver cela choquant du point de vue politique, mais le droit s'applique ainsi, a-t-elle dit. Ça mérite bien, évidemment, un petit cours de droit. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au Service France de RFI. Comment expliquer que l'épouse ait pu prendre la place de son mari alors qu'elle a été condamnée comme lui?
Eh ben, en fait, d'abord sur la prison, hein, le tribunal a estimé que son état de santé était incompatible avec la mise en détention. Elle est donc ressortie libre. Alors pour rappel, elle avait effectivement pas assisté à son procès car elle avait fait une tentative de suicide quelques jours avant, sous le coup, disait-elle, du harcèlement médiatique autour de cette affaire. Alors de plus, elle a tout de suite interjeté appel. Or, cet appel a un effet suspensif de la condamnation, c'est-à-dire que elle n'est pas appliquée jusqu'à ce que tous les recours soient épuisés, et notamment donc ces 10 ans d'inéligibilité. Ce qui veut dire en fait qu'elle peut tout simplement continuer à exercer ses fonctions à la mairie.
Ouais, il faut préciser que Patrick Balkany a lui aussi fait appel, mais l'appel ne suspend pas le mandat de dépôt. Donc lui, il est resté en prison. Pourquoi Isabelle Balkany a-t-elle pu récupérer la tête de la mairie?
Alors là, on n'en vient pas au code pénal, mais au code électoral, hein, alors qui stipule en fait qu'en cas d'absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans leur dénomination. Donc, dans leur dénomination, le premier adjoint, a priori. Quand on parle d'empêchement, on veut dire en fait que le maire n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions. Alors là, on pense plutôt à des déplacements, des vacances, une maladie. Mais en fait, finalement, la prison rentre dans ce cas d'empêchement. Et ça, avec une jurisprudence de la Cour d'appel de Bordeaux, qui s'était prononcée en 98 sur le cas d'un maire de La Réunion qui était en détention provisoire. Donc dans le cas qui nous occupe, Patrick Bayrani est en prison. Il est donc considéré comme empêché. Et la première adjointe, c'est qui ? À la mairie de Levallois-Perret ? C'est Isabelle Balkany et c'est donc elle qui assure l'intérim.
Est-ce que c'est clair, Amadou ?
Oui, c'est bien clair, mais j'ai une autre question, monsieur Yohann.
Eh bien, allez-y, profitez-en.
Alors, que peut-on attendre du jugement du 18 octobre prochain ? Bah, concernant un autre volet du procès sur l'affaire du couple Balkany.
Oui, procès concernant blanchiment de fraude fiscale, corruption, blanchiment de corruption. C'est vrai que le couple Balkany n'en a pas fini avec la justice, Laura Martel.
Oui, alors on va pas présumer de la décision évidemment que va rendre le tribunal, puisque on en sait évidemment rien à l'avance. Effectivement, en revanche, on sait que Patrick Balkany encourt une peine de prison encore plus lourde dans ce deuxième volet. Vous l'avez dit, fait de blanchiment de fraude fiscale, corruption, blanchiment de corruption, et le parquet national financé dans ce volet a requis 7 ans de prison ferme, là encore avec mandat de dépôt, donc incarcération immédiate, mais aussi confiscation de ses biens. En revanche, Isabelle Balkany est-elle uniquement poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale ? Le parquet a requis 4 ans avec sursis et 500 000 euros d'amende. Et dans un réquisitoire qui à l'époque avait été très musclé, le procureur a requis en fait une sanction exemplaire contre Balkany en disant, je cite, que cette sanction devait être à la hauteur de la plus grave des atteintes à la probité de la République, la corruption. Il a évoqué une blessure à la démocratie face à laquelle aucune complaisance n'était possible. Et en fait, ce que reproche l'accusation à Patrick Balkany, c'est que l'ancien député aurait fait commerce de son activité d'élu.
Il nous reste un peu de temps. On peut rappeler aux auditeurs que c'est une somptueuse villa au Maroc, qui est au cœur de ce deuxième volet.
Oui, alors elle s'appelle la Villa d'Arjoussi, elle se situe à Marrakech, et en fait le parquet a essayé de démontrer que cette villa, dont le nom en fait semble évoquer une contraction des prénoms de deux petits-enfants du couple, et où en fait on a retrouvé aussi beaucoup d'effets leur appartenant, notamment des peignoirs aux initiales PB, mais en fait les Balkany ont toujours dit nous on a occupé cette villa, mais on n'en a jamais été propriétaire.
C'est comme si je vais chez vous et je laisse mes peignoirs, finalement.
Voilà, mais ils ont dit, nous, on l'a loué très très souvent, donc oui. On s'était installé, c'est normal, il n'y a pas de problème. Alors, pour le parquet, en revanche, c'est faux, les Balkany seraient bien propriétaires de cette villa, et ils accusent, en fait, les Balkany de s'être fait payer cette villa par un promoteur saoudien, un monsieur qui s'appelle Mohamed El Jaber. Et pourquoi aurait-il payé cette villa à Patrick Balkany ? Eh bien, en échange de délais de paiement favorables dans un gigantesque marché immobilier qu'il avait obtenu à Levallois-Perret. Alors, M. El Jaber lui dit « Je ne suis pas non plus propriétaire de la villa » puisque c'est ce que disait Balkany. Balkany disait « C'est pas moi le propriétaire, c'est M. El Jaber. » M. El Jaber a dit « Non, c'est M. Balkany, mais c'est mon bras droit qui avait négocié tout ça dans mon dos. » Bon, bref, il y a un très nébuleux marché financier, un montage financier autour de cette villa. Le parquet en est convaincu. Elle appartient bien à Patrick Balkany. M. El Jaber a sciemment corrompu Patrick Balkany en lui payant cette villa pour obtenir des avantages de délai, et donc la condamnation pourrait être lourde pour Patrick Balkany. Son avocat, Maître Dupont-Moretti, au vu de la première condamnation dans le premier volet, n'est pas du tout optimiste. Il pense que le juge, dit-il, va se payer à nouveau Patrick Balkany.
Oui, donc verdict le 18 octobre. Amadou, je pense qu'on a été complet.
Bah oui, merci beaucoup, Yann. Bonjour à Raphaël au passage.
Raphaël.
Raphaël, dans votre équipe.
Ah, dans mon équipe. Ah bah oui, excusez-moi, je pensais Raphaël, un des journalistes dans la maison, etc. Très très bien. Décidément, ce matin, c'est le jeu des colles. Les auditeurs essayent de me coller en direct. Merci de votre fidélité. Merci Laura Martel. À très bientôt. On va marquer une pause. Retrouvez l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Ce sera François Mazet qui présentera le journal. Et tout de suite après, la libre antenne, vos commentaires sur l'actualité de la semaine, vos coups de cœur et coups de gueule. Ce sera en direct, évidemment.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.